À tout à l'heure. Onze heures à Paris, 9h en temps universel. Merci de votre fidélité. Bienvenue, si vous nous rejoignez, RFI vous informe. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. C'est à la une de cette édition, le début de la visite d'État de Xi Jinping en France. Le président chinois accueilli d'une minute à l'autre par Emmanuel Macron à l'Elysée. Alors que vont-ils se dire? Quels sont les enjeux? Dossier complet dans ce journal. On revient aussi sur la situation à Gaza et cette annonce d'Israël ce matin. L'État hébreu qui encourage les habitants de Rafah à se rendre dans les zones humanitaires. Et puis on est également à Kinshasa, dans la capitale congolaise, où l'on s'inquiète d'une éventuelle révision de la Constitution évoquée par Félix Tshisekedi. Début ce matin de la visite d'État du président chinois en France, Xi Jinping, qui est arrivé hier à Paris. Il va être accueilli dans quelques instants à l'Élysée par Emmanuel Macron. Visite qui est l'occasion de célébrer les 60 ans de la relation diplomatique entre la France et la Chine, mais aussi de parler des dossiers chauds du moment, comme la guerre en Ukraine ou encore les désaccords commerciaux qui s'accumulent. Alors, quelle marge de manœuvre pour le président français, Agnieszka Kumor?
L'an dernier, dans l'avion, à son retour de Chine, Emmanuel Macron avait suscité un tollé en fustigeant le suivisme à l'égard des alliés américains et en plaidant pour une voie européenne entre la Chine et les États-Unis. Avec cette idée d'une Europe puissance affirmée lors de son discours à la Sorbonne, le président français compte se démarquer de la politique d'opposition frontale de Washington. Là où les Américains misent sur un découplage du marché chinois, là où ils montrent leurs dents contre l'expansionnisme de Pékin autour de Taïwan ou encore en mer de Chine méridionale, là où ils imposent des sanctions aux entreprises chinoises qui fournissent à la Russie des produits alimentant sa guerre en Ukraine, la France, elle, préfère l'opération de charme. La visite de Xi Jinping devrait en être une nouvelle preuve. Paris se positionne comme un partenaire privilégié de la Chine. L'empereur rouge appréciera. Seulement, le scénario risque d'être le même qu'en 2023. Xi profite de l'occasion pour diviser l'Europe sans rien lâcher sur le fond, ni sur les bisbilles commerciales, ni sur ses revendications territoriales, et encore moins sur son soutien à la Russie.
Alors on entend avec vous, Eike Schmidt du service international de RFI, la marge de manœuvre du président français est très réduite. Pourtant, pour le président chinois, il y a aussi un enjeu important, car cette tournée en Europe et à plus large en France et à plus large échelle sur le continent européen, c'est surtout l'occasion de rappeler que l'UE est un partenaire essentiel pour Pékin, et ça, Xi Jinping ne peut l'omettre. C'est ce qu'explique Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine.
La Chine a encore besoin de l'Europe, surtout pour défaire le lien transatlantique et l'utiliser comme un levier contre la puissance américaine. Donc détacher en quelque sorte, pour reprendre les termes chinois, l'Europe des États-Unis et l'utiliser comme un ventre mou, c'est-à-dire exporter de manière puissante ces technologies. Les Chinois parlent des trois nouvelles technologies, les voitures électriques, le photovoltaïque pour l'énergie et les batteries. Et quand on regarde les ports à Anvers ou à Rotterdam, il y a déjà plus de 1 million, 1,5 million de véhicules chinois qui sont en attente d'être distribués sur l'ensemble du continent européen. Et derrière cela, il y aurait la volonté chinoise de revenir au slogan de reconnecter la Chine avec les routes de la soie à l'Europe et les nouvelles initiatives internationales chinoises, où là on ne parle plus uniquement de routes de la soie, mais d'envergure d'initiative globale.
Des propos recueillis par Cléa Broder. Cet autre titre de l'actualité de ce matin, c'est que l'armée israélienne demande l'évacuation partielle de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. L'armée qui précise qu'il s'agit d'une opération militaire limitée. Israël qui commémore ce lundi Yom HaShoah, un hommage aux victimes de l'Holocauste où 6 millions de Juifs ont été tués durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Et cette année, les horreurs du passé résonnent avec celles du 7 octobre dernier. À Jérusalem, Sami Bourlifa a rencontré Joseph Engel, ce fils de déporté est profondément marqué par l'attaque du Hamas durant laquelle l'un de ses petits-enfants a été enlevé, actuellement retenu en otage à Gaza. Reportage.
Pour moi, le 7 octobre, c'est aussi la Shoah.
Joseph Engel est israélien, il a des racines néerlandaises et slovaques.
Les nazis ont arrêté mon père le 11 février 1943. Ils l'ont envoyé à Auschwitz-Birkenau. Ils lui ont tatoué sur le bras le numéro 101057. C'était sa nouvelle identité.
Un récit familial tragique, celui de millions de juifs exterminés durant la Seconde Guerre mondiale. Le père de Joseph Engel survit et s'installe en Palestine dès la fin de la guerre en 1945, raconte le vieil homme. Quelques années plus tard, la naissance de l'État hébreu, foyer du peuple juif, garant de sa sécurité.
À l'époque, on avait dit « plus jamais ça ». Et on l'a toujours répété, donc on n'arrive pas à comprendre et expliquer ce qui s'est passé. Ce que le Hamas a fait le 7 octobre, ce n'est pas rien. 1200 Israéliens ont été tués en 8 heures. 1200 personnes tuées en 8 heures, c'est en moyenne plus de morts par heure que durant l'Holocauste.
Près de 250 personnes ont également été enlevées ce jour-là. Parmi les otages, Ophir Engel, 17 ans, le petit-fils de Joseph Engel. Après 54 jours de captivité, le jeune homme a été libéré fin novembre dernier durant l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas. Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
On vote au Tchad. Aujourd'hui, élection présidentielle ce lundi pour mettre un terme à 3 ans de transition. 10 candidats en lice et notamment le président de la transition Mahamat Idriss Déby et son premier ministre, l'opposant Succès Masra. En RDC à présent, le président Félix Tshisekedi ne s'est pas déclaré contre une éventuelle révision de la constitution. Cela près de 5 mois après les élections générales et à 4 ans de la fin du deuxième et dernier mandat du président. Et lors de sa récente tournée européenne, il a annoncé la mise en place d'une commission qui devrait réfléchir sur une nouvelle constitution. Une annonce qui inquiète l'opposition et la société civile, Pascal Mulégois.
Interrogé par des membres de la diaspora à Bruxelles sur une éventuelle modification de la constitution, le président Tshisekedi n'a pas fermé la porte et a déclaré vouloir une constitution, je cite, « digne de notre pays ». L'opposition craint déjà que le président puisse ramener à zéro les compteurs de ses mandats. Le député Christian Mondo dirige le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale.
C'est une tentative de troisième mandat et ça, on ne peut pas l'accepter et on ne l'acceptera pas. C'est un manque total de leadership. Le leader est en voyage. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour la République et ne pas toujours mettre la faute sur les autres et ne pas mettre la faute sur les textes. Les textes sont clairs, les textes sont bons. Avec une majorité qui est stalinienne, il aurait dû mettre le pays en ordre et il ne l'a pas fait et il n'a pas à accuser personne, ni même la Constitution.
Jean-Claude Katende de l'Azado, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, estime que par cette annonce, le président franchit les Rubicons.
Même au milieu des membres de l'Union sacrée, il y en a plusieurs qui n'accepteront pas que le nombre de mandats soit changé, que la durée du mandat et le mode de désignation du président changent. Ouvrir cette porte donnerait de la légitimité à toute personne qui recourirait même aux moyens non légitimes pour défendre la Constitution.
Depuis son investiture en janvier dernier pour son second mandat, le président Félix Tshisekedi n'a eu de cesse d'imputer à la Constitution les retards dans la mise en place des institutions politiques. Pascal Mulégois, Kinshasa, RFI.
Le président russe Vladimir Poutine ordonne ce lundi la tenue d'exercices nucléaires dans un futur proche. Ce qui implique notamment des troupes basées près de l'Ukraine en réponse aux menaces de dirigeants occidentaux envers Moscou. Voilà ce qu'a déclaré ce lundi le ministère de la Défense russe. Et puis on termine ce journal en Hongrie, le pays qui connaît un important mouvement contre Viktor Orban, mouvement mené par Péter Madiar, ancien haut fonctionnaire du régime Orban, entré en rébellion avec ce régime précisément. Après avoir drainé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Budapest, la capitale, Péter Madiar mène une tournée en province. Et hier, près de 10 000 Hongrois étaient venus l'écouter à Debrecen, la deuxième ville du pays, Florence Labruyère.
Drapeau aux couleurs hongroises à la main, Clara Németh est une grand-mère enthousiaste. Elle milite pour le parti de Péter Madiar.
Il est sincère, intelligent et il parle de mieux en mieux.
Voilà comment le Fidesz respecte les femmes. En Arabie Saoudite, il y a plus de femmes au gouvernement qu'en Hongrie.
Vêtu d'un jean et d'une chemise blanche, Péter Madiar tire à boulet rouge sur le gouvernement. Esther est séduite par son charisme et son sens de l'humour.
Nous aimons Péter, nous avons confiance en lui et l'espoir nous fait vivre.
Dans la foule, il n'y a pas que des opposants, il y a aussi des électeurs de Viktor Orban, comme Nora, une jeune juriste. Pour elle, Péter Madiar est le seul politicien crédible, précisément parce que c'est un ancien cadre du régime.
Sa force, c'est qu'il sait comment fonctionne le cœur du pouvoir. Il connaît les hommes, il connaît tout. C'est seulement de l'intérieur qu'on peut réformer ce régime.
Aux prochaines élections européennes, 25% des électeurs sûrs de leur choix voteraient pour Péter Madiar, dont le parti est en deuxième position derrière celui de Viktor Orban. Florence Labruyère, de retour de Debrecen, RFI.
Debrecen où il est 11h10, tout comme à Paris. Et comme tous les jours, du lundi au vendredi, vous retrouvez Caroline Paré, priorité santé sur RFI.
Un grand merci à vous Stéphane Genest.